Je commencerai par une question. Pourquoi consacrer une séance entière à l'esclavage au Brésil dans un cycle général dédié à une histoire mondiale de l'esclavage? Et la réponse est simple, c'est que le Brésil occupe une place à part dans l'histoire de l'esclavage. Le Brésil fut sans doute la société esclavagiste la plus massive et la plus durable du continent américain. Je vous ai mis là une carte du Brésil colonial. Le premier point, c'est que l'abolition a été très tardive. C'est seulement en 1888 qu'eut lieu l'abolition de l'esclavage au Brésil. Ce qui signifie que de tous les pays concernés par l'esclavage transatlantique, c'est le pays qui a aboli le plus tardivement l'esclavage. Quelques dates pour comparer. Dans les colonies françaises, l'abolition date de 1848. Dans les nations d'Amérique latine indépendantes, l'abolition de l'esclavage date entre les années 1820 et 1850. Aux États-Unis, 1865. Cuba, qui est encore une colonie espagnole, abolit l'esclavage en 1886. Le Brésil en 1888. Mais le Brésil n'est plus une colonie. Le Brésil est une nation indépendante depuis 1822. C'est une monarchie libérale avec une constitution et une définition de la citoyenneté. Et pourtant, entre 1822 et 1888, il y a le maintien de l'esclavage. Ainsi, je commence par la fin, le Brésil maintient le plus longtemps possible l'esclavage, alors qu'à cette époque, il y a une très forte pression internationale, et notamment britannique, pour l'abolition de l'esclavage. Le deuxième point, c'est que l'esclavage au Brésil a été lié à une traite particulièrement durable et massive. Il existe des données générales sur la traite transatlantique qui sont aussi parlantes. Ce sont des données de Philippe Curtin. On estime, et c'est plutôt une estimation basse, à 10 millions d'esclaves africains transférés du 15e au 19e siècle. Une partie vers l'Europe, mais une grande majorité, bien sûr, vers l'Amérique. De ces 10 millions, 4 millions pour le Brésil, 1,6 million pour l'Amérique espagnole, 1,6 million pour les Antilles françaises, 1,6 million pour les Antilles britanniques, 550 000 pour l'Amérique anglaise et pour les États-Unis. Ces données sont encore plus intéressantes si on les compare avec la durée de la traite. Reprenons nos exemples. Les Antilles françaises, 1,6 million, dont 1 million dans la période 1740-1790. Un pic durant une période relativement courte, après 1790, la traite reprend au début du 19e siècle, mais de façon plus restreinte. En Amérique anglaise, puis États-Unis, on a dit 550 000 esclaves transférés d'Afrique. Mais la traite ne commence qu'en 1700 et elle est pratiquement arrêtée en 1810. Là aussi, période de temps plus courte. Au Brésil, alors que la traite a commencé depuis le XVIe siècle, à partir des années 1550, elle se prolonge donc jusqu'en 1850. Et elle ne se prolonge pas de façon limitée, sporadique, comme une sorte de reste. Non. Entre 1830 et 1850, moment où la traite
est internationalement condamnée et interdite, il y a encore 700 000 esclaves africains qui rentrent dans les ports du Brésil en plein boom du café. Dans aucune autre région d'Amérique, la traite aura duré donc aussi longtemps et de manière aussi continue. Le Brésil est le pays qui a reçu le plus d'esclaves africains tout au long de la période de la traite transatlantique. Cet apport continu et durable d'Africains a eu de nombreuses conséquences. Certaines sont évidentes. Les Africains forment une part, une composante importante de la population, les Africains et les descendants d'Africains. Il y a une arrivée permanente de nouveaux Africains, de régions et de cultures différentes selon les époques. Ces Africains viennent du Golfe de Guinée, viennent d'Afrique centrale, Congo, Angola, du Golfe du Bénin, de l'Afrique de l'Est, Mozambique. D'autres conséquences, moins immédiatement évidentes, mais sont également importantes. Le fait que la traite soit si massive explique les formes particulières de l'esclavage au Brésil. D'une certaine façon, les esclaves sont facilement remplaçables. Il y a toujours de nouveaux arrivants. Ceci implique que le traitement des esclaves ne s'améliore pas. On peut user les esclaves et les remplacer. On peut dire aussi que parce qu'il y a la traite, l'affranchissement est relativement facile au Brésil. On affranchit les esclaves et on en rachète de nouveaux. Le fait que la traite soit si massive explique aussi que avoir des esclaves est très répandu dans cette société. Il n'y a pas que les hommes blancs et riches qui possèdent des esclaves. D'anciens esclaves, les affranchis, les hommes noirs, possèdent aussi des esclaves. Bref, il y a un lien très fort entre traite et esclavage. Et l'abondance de la traite façonne la forme de l'esclavage au Brésil. Nous y reviendrons. Une autre caractéristique importante de cet esclavage du Brésil, c'est qu'il existe un esclavage indigène massif au Brésil, l'autre esclavage du Brésil. L'esclavage au Brésil n'a pas concerné que les Africains déportés, mais aussi les Indiens, et des Indiens eux aussi déportés. Aux côtés des esclaves africains, que l'on appelle à cette époque les nègres de Guinée, il existait aussi des esclaves indiens qu'on nommait les nègres de la terre, les nègres de cette terre, c'est-à-dire des Indiens. Longtemps méconnu, cet esclavage indigène a été exhumé récemment par les historiens. Et là, c'est une grande différence entre le monde portugais et le monde espagnol. En Amérique espagnole, l'esclavage des Indiens, qui a été pratiqué aussi au départ, est devenu exceptionnel dès le milieu du XVIe siècle. En Amérique portugaise, il a été massivement pratiqué jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Nous essaierons de comprendre pourquoi. Tous ces points permettent de dire que le Brésil est une véritable société esclavagiste. Les historiens distinguent entre les sociétés à esclaves et les sociétés esclavagistes. Les sociétés à esclaves sont des sociétés où il y a eu des esclaves. Ce sont pratiquement toutes les sociétés anciennes. Les sociétés occidentales médiévales, par exemple, ou les sociétés de l'Europe du Sud moderne, l'Espagne, le Portugal, l'Italie. Mais les sociétés esclavagistes sont celles où l'esclavage constitue le pivot, le cœur du fonctionnement de la société. C'est notamment l'historien Finlay, un grand historien britannique des sociétés antiques, qui a proposé dans un essai stimulant de la fin des années 70, « Esclavage antique » et idéologie moderne, l'idée qu'il y avait eu 5 authentiques sociétés esclavagistes dans l'histoire occidentale. Et il donne comme liste la Grèce classique, l'Italie classique, le Brésil, les Caraïbes et le sud des États-Unis. Alors, quels sont les critères pour distinguer ces sociétés esclavagistes ? Selon Finlay, il faut que le nombre d'esclaves par rapport à l'ensemble de la population soit important, un tiers au minimum. Il faut qu'il y ait un grand nombre de maîtres d'esclaves dans la population, ce qui implique que les maîtres d'esclaves aient un statut social relativement bas. Il faut enfin des raisons économiques. Les esclaves doivent constituer la main-d'œuvre permanente qui fournit la majorité des revenus directs de la propriété. Que les esclaves soient la main-d'œuvre la plus courante de cette société. Il faut enfin, selon Finlay, l'existence, en dehors de la société, d'un réservoir de travailleurs esclaves potentiels. C'est la fameuse traite, où la société puise puiser à des conditions légales et culturelles acceptables. Il y a là l'idée du consensus sur lequel nous reviendrons, l'idée que cet esclavage doit être accepté par l'ensemble de la société. Les critères de Finlay, qui proviennent de sa profonde connaissance des mondes antiques, peuvent nous aider à comprendre les sociétés esclavagistes de l'époque moderne. L'époque des découvertes et la Renaissance constituent donc une époque de résurgence des sociétés esclavagistes, cette fois-ci dans le monde atlantique. Alors, comment interpréter cet esclavage brésilien ? L'esclavage au Brésil a-t-il été un esclavage paternaliste, où les maîtres considéraient les esclaves comme des membres de leur famille, certes des membres inférieurs, mais avec une relation de type familial, ou au contraire, l'esclavage au Brésil a-t-il été un esclavage dur, où les esclaves étaient particulièrement pressurés, exploités ? Quelles étaient les possibilités d'intégration et d'ascension sociale pour les esclaves ? Par quoi tenait cette société esclavagiste ? Par la pure contrainte et la domination, ou au contraire par d'autres liens sociaux qui ont pu exister malgré l'esclavage ? Les réponses à ces questions ne sont pas évidentes et elles ont varié au cours du temps, donnant lieu à des débats historiographiques. Nous essaierons de présenter de manière synthétique ces discussions. C'est à l'ensemble donc de ces questions que je voudrais tenter de répondre dans cette conférence, pour essayer de montrer en quoi l'histoire de l'esclavage au Brésil constitue une page particulièrement intéressante de l'histoire mondiale de l'esclavage, et pour montrer en quoi l'histoire de l'esclavage au Brésil bouleverse un certain nombre d'idées reçues sur l'esclavage. Alors, le premier point que je traiterai, c'est la question de la traite et de l'empire portugais. La traite portugaise des esclaves est bien antérieure à la découverte de l'Amérique. C'est au milieu du XVe siècle que les Portugais parviennent à contourner la traite saharienne pour les esclaves et pour l'or, l'autre grande richesse africaine. Ils vont donc se procurer les esclaves directement en Afrique noire et ils les revendent sur les marchés européens de Lisbonne et de Séville. Dès la fin du XVe siècle, le commerce des esclaves concerne par le biais d'intérêts financiers toute l'Europe. Mais le Portugal en reste le centre, notamment parce qu'il a obtenu de la papauté le droit exclusif de naviguer et de commercer sur les côtes africaines. Le recours à Rome, à la papauté, pour établir des droits sur le monde des infidèles, s'explique pour des raisons diplomatiques et religieuses. Une bulle pontificale au XVe siècle est le moyen d'obtenir un monopole et de faire respecter le privilège par les souverains étrangers. Car au XVe siècle, la papauté est la seule instance véritablement internationale reconnue par tous les princes chrétiens. La bulle Romanus Pontifex de 1455 fonde la légitimité religieuse de l'Empire portugais. L'esclavage et la traite sont clairement envisagés dans le texte de la bulle. Je vous ai mis la citation. En naviguant et en combattant, les Portugais ont réussi à capturer des nègres, ou ils les ont achetés par troc avec des marchandises non interdites ou par légitime contrat d'achat, et les ont ramenés au Portugal, où un grand nombre ont embrassé la foi catholique. Ce petit extrait nous donne des clés pour comprendre la question de l'esclavage à l'époque moderne. L'esclavage et la traite sont considérés comme légitimes dans certaines conditions. Et aux yeux de la papauté et de la plupart des chrétiens, ils représentent un espoir de conversion des populations païennes d'Afrique. Cet argument est important car il sera constamment repris par les ecclésiastiques tout au long de la période de l'esclavage. Cette reconnaissance par la plus haute autorité religieuse du monde chrétien de l'esclavage au milieu du XVe siècle montre clairement qu'il n'y a pas de scrupule d'ordre moral ou juridique à avoir recours à l'esclavage. Les Portugais s'installent sur le littoral africain, dans des entrepôts et dans les îles, et ils accèdent aux marchés africains d'esclaves grâce à leurs alliances avec des souverains locaux, comme le roi du Congo, qui se convertit au catholicisme à la fin du XVe siècle. Le Portugal occupe donc une position stratégique pour la traite des esclaves, qu'il va garder pendant toute la période moderne. La découverte du Brésil est une nouvelle étape dans l'histoire des relations du Portugal et du monde. Le Brésil est découvert en 1500 par les Portugais sur leur route des Indes. Ce nouveau territoire rentre dans leur zone d'influence. Au début du XVe siècle, sur la côte du Brésil, les Portugais se limitent à l'exploitation du bois de teinture, surnommé Pau Brésil, bois Brésil. C'est ça qui donne le nom au pays. L'exploitation du bois passe par des relations de troc et d'échange avec les tribus indiennes du littoral. Il n'y a pas de mise en esclavage immédiate des tribus. Progressivement, les Portugais vont tenter d'autres formes d'exploitation du Brésil et notamment, ils essaient l'implantation de la canne à sucre qui est déjà cultivée à Madère, aux Açores et dans les îles de Saint-Thomé, dans le golfe de Guinée, où ils ont inventé les plantations d'esclaves. Or, la terre du Brésil et notamment le nord-est se révèle immédiatement très favorable à la culture de la canne. Commence alors au Brésil le cycle du sucre. De 1570 à 1680, le Brésil est le premier producteur mondial de sucre, place qu'il va perdre ensuite au détriment des Antilles pendant le XVIIIe siècle, mais le sucre reste tout au long de la période une activité économique centrale et aujourd'hui le Brésil est le premier producteur mondial de sucre encore. Il est essentiel de comprendre le lien entre le sucre et l'esclavage. C'est le succès de cette culture commerciale d'exportation qui explique le recours massif à l'esclavage. Le sucre est une activité complexe, une véritable agro-industrie. Il y a tout un processus qui mène du champ jusqu'au moulin à sucre. Il faut faire pousser la canne à sucre, désherber, couper les cannes au moment de leur maturité, les transporter jusqu'au moulin, les écraser pour en faire sortir le jus, faire cuire ce jus d'une manière délicate, le purger, le laisser cristalliser et enfin faire sécher le sucre dans des cônes. Le sucre est ensuite envoyé en Europe où il est vendu à des tarifs fixés à la bourse d'Anvers et de Londres. Et l'Europe connaît, à partir du XVIe siècle, le développement d'une véritable civilisation du sucre, avec le développement de la pâtisserie et des sculptures de sucre. Nous sommes encore dans ce monde-là. Au Brésil, c'est le lieu donc de la fabrication du sucre. Cette agro-industrie capitaliste fonctionne grâce à une main-d'œuvre nombreuse, plus ou moins qualifiée, les esclaves. Il y a tout au long du processus de fabrication du sucre des esclaves. Il y a donc des esclaves du champ qui fonctionnent par paire. L'homme coupe les cannes, la femme les lit en gerbe. On connaît même la tâche journalière d'un couple d'esclaves, 4200 cannes par jour. C'est un travail harassant. D'autres esclaves sont chargés du transport vers le moulin des cannes coupées. Il faut faire vite pour que les cannes ne sèchent pas. Enfin, il y a les esclaves de moulin qui sont comparés, enfin, le moulin plutôt est comparé à l'enfer avec ses vapeurs, sa chaleur. Là encore, ce sont souvent les femmes qui versent les cannes dans les meules pour qu'elles soient écrasées, avec des immenses risques, car on peut tomber ou le bras peut être broyé. Il faut ensuite faire cuire le jus et le purger. Ce travail est délicat, il requiert des compétences, car si le jus est brûlé, c'est toute une récolte qui est perdue. Il y a donc toute une série de tâches, une ligne de production. C'est un travail à la chaîne, un travail industriel. Et les esclaves sont présents tout au long de ce processus. On compte une centaine d'esclaves pour un gros moulin à sucre. Le travail ne s'arrête quasiment jamais. La moisson dure 9 mois par an. Donc il suffit de bien planter ces champs de cannes pour avoir des cannes à couper en permanence tout au long de l'année. Et c'est ça la grande richesse du Brésil, 300 jours de culture, de moisson possible. La plantation dure 2 mois. Le moulin travaille jour et nuit. Il n'y a que 2 heures d'arrêt pour le nettoyage. Les conditions de vie sont très dures et il suffit de décrire ce travail pour que vous vous en rendiez compte. Du coup, la démographie est mauvaise, la mortalité est élevée, la natalité est basse, l'espérance de vie est courte. La population est en déclin naturel et il faut avoir recours à la traite pour pallier cette baisse. Du point de vue du propriétaire, les esclaves coûtent cher. Ils doivent être rentabilisés et donc exploités au maximum. En 2 ans, l'esclave rembourse son prix d'achat. Il est plus intéressant d'acheter un esclave d'Afrique, qui a l'âge de travailler, 20 ans, plutôt que d'élever un créole, un esclave né sur place, la mortalité infantile et juvénile étant très forte. Exploiter au maximum les esclaves fait partie donc du système. La description de cette fabrication du sucre, je la prends d'un grand historien américain de l'histoire des plantations sucrières, Stuart Schwartz, qui est l'auteur d'un chapitre sur le Brésil des plantations dans la Cambridge History of Latin America en 1984. Dans cet ouvrage, Stuart Schwartz prenait en quelque sorte le contre-pied de la vision paternaliste qui avait été longtemps dominante sur l'esclavage au Brésil comme un esclavage familial, laxiste et relativement agréable pour les esclaves. Au contraire, Stuart Schwartz montrait la dureté du système brésilien. 10 ans plus tard, après cette publication, Stuart Schwartz est revenu sur cette description très dure du système, qu'il n'a pas renié du tout, mais il a affiné et préciser sa vision. Ses travaux plus récents, où il analyse en termes de rationalité économique. Il montre que l'exploitation est limitée, notamment par les préceptes de l'Église. Il évoque les fêtes religieuses, qui sont en fait très nombreuses, et qui force le moulin à être stoppé. Donc il parle de 100 jours dans l'année où le moulin ne fonctionne pas. Il montre aussi surtout que la rationalité économique doit tenir compte de la coopération esclave. Il y a en effet des risques de sabotage tout au long du processus de fabrication. Laisser brûler le sucre, par exemple. Dans la chaîne de production, la qualité du travail est importante. Et donc, Stuart Schwartz repense l'idée du travail esclave en montrant qu'il existe des formes de récompenses pour inciter les esclaves à bien travailler. Ces récompenses sont des rations alimentaires supplémentaires ou le développement du travail à la tâche, qui permet à l'esclave qui travaille vite, une fois sa tâche terminée, d'aller travailler pour lui, sur un lopin de terre, où il produit sa propre alimentation. L'esclave reçoit alors le droit de commercer le produit de son lopin sur les marchés. L'esclave peut alors se constituer un pécule qui lui permet à terme d'envisager une manumission, c'est-à-dire un affranchissement. Dans cette nouvelle vision, on voit comment l'esclavage, et c'est ce que dit Stuart Schwartz, est un système admirablement adaptatif. Et surtout, il montre que le travail constitue le cœur de l'esclavage. Il faut aller au bout de l'idée de rationalité économique et à chaque fois qu'on pense à une forme d'esclavage, réfléchir à la forme de travail qui correspond. Et à chaque forme de travail correspond des formes d'esclavage différents. J'aurai l'occasion d'y revenir un peu pour parler du travail des mines, du travail de l'or qui se développe au XVIIIe siècle dans la région des Minas Gerais, dans les mines générales. Je vais développer maintenant ce point de l'Atlantique Sud pour revenir sur cette idée de cette complémentarité entre les deux rives de l'Atlantique, entre le sucre du Brésil et les esclaves d'Afrique. Donc cette complémentarité, elle est claire dès la seconde moitié du XVIe siècle. Le Brésil ne peut pas se passer des esclaves d'Afrique. Et la conquête de l'Angola par les Portugais en 1575 est pensée comme le moyen de fournir des esclaves aux plantations du Brésil. Pour l'historien Luis Felipe de Alencastro, plutôt que de Brésil, il vaut mieux parler de l'Atlantique Sud à cette époque. Et cet Atlantique Sud désigne cet espace que vous voyez sur l'écran, un espace de colonisation portugaise intégrée. Les deux rives, le lieu de la fabrication, le lieu des esclaves. Les élites politiques, marchandes et religieuses pensent les deux rives de l'Atlantique comme un seul tout. Les populations africaines doivent être transférées pour travailler et être évangélisées au Brésil. Quand les Hollandais arrivent au Brésil au XVIIe siècle, les Hollandais vont conquérir une partie du nord-est du Brésil, la région du Pernambouc, au milieu du XVIIe siècle. Et les très belles images que je vous ai montrées sont des peintres hollandais qui ont été présents au Brésil au XVIIe siècle. Je vous les remontre parce qu'elles sont magnifiques. Donc quand les Hollandais occupent le Pernambouc, ils font le même calcul que les Portugais et ils s'emparent de Luanda en 1641, car sans les esclaves d'Angola, il n'y a pas de Brésil. Le Portugal est en pleine faiblesse à ce moment-là, incapable d'envisager de reprendre l'Angola, mais ce sont les colons brésiliens eux-mêmes qui vont aller s'emparer de l'Angola pour récupérer ce qu'ils considèrent comme leur territoire, dont ils ne peuvent pas se passer car ils ont besoin d'esclaves. C'est donc un contingent de colons du Brésil qui reconquiert l'Angola. L'Atlantique Sud est bien une réalité au XVIIe siècle. Alors je voudrais revenir encore sur les nègres de la terre, les esclaves indiens, avant ensuite de finir par des images sur la société esclavagiste. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les esclaves au Brésil n'ont pas été seulement des Africains, ils ont été aussi des Indiens, des nègres de la terre. Ce sont des Indiens capturés par les Portugais. Alors comment expliquer qu'il y ait des esclaves indiens au Brésil? Cela s'explique par la différence dans le type de conquête. Dans le monde de l'Amérique espagnole, la conquista a été rapide. Les Espagnols ont pris la place des empires précolombiens et dès 1556 ont proclamé la fin de la conquête. Au cœur de l'empire espagnol, l'esclavage des Indiens a donc été interdit, les Indiens devenant sujets du roi d'Espagne. L'esclavage se maintient dans les frontières de cet empire, au sud du Chili, au nord du Mexique, là où les Indiens sont restés rebelles et là où ils n'ont pas été intégrés dans l'espace colonial. Dans le monde de l'Amérique portugaise, comme il n'y avait pas de structure politique indigène forte avant l'arrivée des Européens, la conquête a été un processus lent, jamais achevé. C'est une avancée progressive sur le territoire, là on voit des flèches, et il a donc toujours été possible de déclarer ce qu'on appelle des guerres justes, c'est-à-dire des guerres sur les barbares qui refusent la colonisation et qui sont présentés comme agressifs. Or, la guerre juste est l'une des formes légitimes de mise en esclavage. Donc, sous le prétexte de la guerre juste, les chasseurs d'Indiens vont chercher des Indiens à l'intérieur des terres tout au long de la période. Il faut que vous imaginiez qu'il s'agit bien là d'une véritable traite. Dans les années 1620, les habitants de São Paulo, les paulistes, vont dans la région de la Guaira, hein, la région du Paraguay actuel, et ils ramènent des dizaines de milliers d'Indiens. Hein, on évalue à 60 000 Indiens l'arrivée des Guarani à São Paulo dans les années 1620-1630. Ils vont même jusqu'à ces paulistes attaquer les Indiens des missions jésuites espagnoles, suscitant un bref de condamnation du pape en 1639. Il apparaît clairement que cet esclavage est un abus et qu'il ne peut entrer dans la catégorie de la guerre juste. Mais les colons le camouflent alors en appelant ça de l'administration particulière, hein, un autre nom pour l'esclavage. Ils n'ont pas d'esclaves, ils ont des administrés. Mais cela est exactement comme de l'esclavage. Les Indiens sont possédés, ils sont vendus, ils sont achetés, ils sont loués, ils sont légués en testament. Cette importance de l'esclavage indien, je l'ai dit, dure jusqu'au milieu du XVIIe siècle pour certaines régions. La transition vers l'esclavage africain est achevée dans les années 1630 pour le Nord-Est, mais dans les régions du Sud, notamment São Paulo et Rio, avant la découverte de l'or, l'esclavage indien se maintient tout au long du XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, la colonisation de l'Amazonie va permettre aussi encore un esclavage indigène important. Cette importance de l'esclavage indigène et les débats qu'il a suscités nous permettent de comprendre un peu mieux la conception de l'esclavage de cette époque. Ça sera mon point suivant, la conception de l'esclavage dans un monde chrétien. Le monde portugais est un monde chrétien, il hérite de la conception chrétienne de l'esclavage qui est ancienne. Je rappelle, l'Église et le christianisme se sont construits dans un monde esclavagiste, le monde de l'Italie classique, le monde romain. Dans la conception chrétienne de l'esclavage, l'esclavage est un mal, il n'a pas été voulu par Dieu, mais il existe à cause du péché des hommes. Un esclave, dans cette conception chrétienne, reste un homme. C'est un homme qui n'est plus maître de lui-même, il appartient à un autre, son maître, qui possède à la fois sa personne et son travail. Cet homme dépossédé de sa propre domination est une marchandise qui peut être vendue, louée, léguée en héritage. Dans cette conception chrétienne, l'idée est que l'esclavage existe dans toutes les sociétés humaines et que dans chacune de ces sociétés, l'esclavage a ses règles propres. Il existe donc dans chaque société de l'esclavage légitime et de l'esclavage illégitime. Et les ecclésiastiques se contentent de combattre l'esclavage illégitime. Ils acceptent l'esclavage légitime. Dans la société chrétienne, les formes légitimes de mise en esclavage sont au titre de quatre. La guerre juste, dont j'ai parlé, qui doit être contrôlée par des autorités supérieures. La commutation d'une peine de condamnation à mort, c'est ce qu'on appelle le prix de la vie. Si vous rachetez un condamné à mort, il est votre esclave. l'aliénation de la personne en cas de nécessité extrême, en cas de famine, un homme peut se vendre lui-même en esclavage, c'est autorisé. Et enfin, la naissance, la loi du ventre. Si votre mère est esclave, vous êtes esclave. Dans la conception chrétienne encore de l'esclavage, il est autorisé d'acheter des esclaves légitimes des autres sociétés. C'est le grand argument des acheteurs d'esclaves en Afrique, qui achètent des esclaves légitimes selon les lois de l'Afrique et les déportent en terre chrétienne. À l'époque que j'évoque, 16e, 17e et encore une grande partie du 18e siècle, personne ne remet en cause l'esclavage en soi. Les adversaires de l'esclavage dénoncent le caractère illégitime de certains esclaves. Par exemple, en disant que la guerre juste n'a pas été une vraie guerre juste. Bon. Mais l'esclavage apparaît comme une chose acceptable. Alors, pour continuer, j'aimerais faire dans cette dernière partie ce que j'ai appelé des arrêts sur image. Et pour faire ces arrêts sur image, je m'appuie sur une source extraordinaire, le voyage pittoresque de Jean-Baptiste Debré dans la société esclavagiste brésilienne. Jean-Baptiste Debré est donc un de nos compatriotes, c'est un Français, un peintre de Napoléon, un neveu de David, et qui avait des idées plutôt libérales. Et lorsque les Bourbons sont revenus sur le trône en 1815, il est parti au Brésil pour une mission artistique. Et il y a séjourné 15 ans. À son retour à Paris, il publie une série d'aquarelles avec un commentaire d'une page accompagnant chaque image. Ces miroirs des réalités brésiliennes ont une extraordinaire valeur documentaire et je vais m'appuyer sur ces images pour vous décrire cette société esclavagiste. La première des images, le feitor corrigeant des nègres. Alors, je vais commencer par évoquer le commentaire de Debré et ensuite je ferai le mien. Donc, le commentaire de Debré. Le gérant a reçu du propriétaire le droit d'infliger des corrections pour des délits qui sont l'ivrognerie, le vol, la fuite, la paresse. Et ces délits se répriment par des coups de chicotte. Les entraves, vous voyez, l'image est à l'envers. Les entraves permettent, et là je cite Debré, l'assouvissement de la colère du correcteur, qui donne de 12 à 30 coups. On cicatrise ensuite les blessures par le vinaigre et le poivre. Mon commentaire. Les châtiments font partie de l'esclavage. C'est une manière de rappeler à l'esclave son statut inférieur, de même que la marque offerte est la marque de l'esclavage. Les entraves, les deux lanières de la chicotte, qui permettent, dès le premier coup, de retirer la peau, renvoie à une forme de sadisme du châtiment qui est toujours dénoncée. Le châtiment comporte une forme de déshumanisation et c'est la marque de cette société esclavagiste. Les témoignages de la violence physique sur le corps des esclaves sont innombrables. À la fin du XVIIe siècle, le roi du Portugal a tenté de limiter les abus des châtiments physiques. Il a fait une loi pour interdire aux maîtres d'abuser des corrections et des châtiments. Immédiatement, les esclaves ont commencé à porter plainte devant les tribunaux contre leurs maîtres. Effrayés par les conséquences sociales de ce mouvement, les autorités coloniales ont convaincu le roi de faire marche arrière. C'est ce qu'il a fait en se contentant de vœux pieux. Il a retiré sa loi et il s'est contenté de conseils aux maîtres pour qu'ils ne frappent pas leurs esclaves de manière trop violente. Cette histoire de cette loi anti-abus nous montre à la fois la violence des maîtres, la capacité d'action des esclaves qui immédiatement vont aux tribunaux, et finalement, le recul des autorités publiques devant l'autorité des maîtres, considérée comme inaliénable dans le système esclavagiste. Il y a cependant une limite, la mise à mort des esclaves par leur maître est interdite. Cette image nourrit ce que certains historiens ont appelé l'imaginaire du tronco, l'imaginaire de ces instruments d'entrave des esclaves. Certains historiens ont dénoncé cet imaginaire comme une forme de stéréotype et ils préfèrent mettre en avant l'habilité des esclaves à se mouvoir dans la société et à y créer des espaces autonomes. C'est pour ça que je vous ai parlé de l'histoire de cette loi, hein, pour vous montrer qu'il y a bien les deux choses, châtiment et aussi capacité des esclaves à se défendre. Même si l'esclavage ne se résume pas à cela, les châtiments sont un élément essentiel de l'esclavage. Et dans cette image d'âme dans son intérieur, vous avez une scène paisible, intimiste, mais vous reconnaissez la chicotte à côté de la dame brésilienne, hein, qui nous rappelle la scène antérieure et qui nous montre que même dans les scènes paisibles et intimistes, hein, il y a toujours ce renvoi à au châtiment. L'image suivante, un employé du gouvernement sortant de chez lui avec sa famille. Debré explique, c'est le départ à la promenade d'une famille de moyenne fortune dont le chef est un employé du gouvernement. Il y a un ordre strict, le chef de famille, suivi des enfants par âge, la mère, encore enceinte, sa femme de chambre, esclave mulâtresse infiniment plus distinguée dans le service qu'une négresse, hein, je cite Debré, la nourrice négresse, l'esclave de la nourrice, le nègre domestique du maître suit le nègre nouvellement acheté, le nègre neuf nouvellement acheté, qui est tout au bout de la file. Il est l'esclave de tous les autres, dit Debré, et dont l'intelligence plus ou moins active doit se développer peu à peu à force de coups de fouet. Le cuisinier garde la maison. Il n'y a pas grand-chose à rajouter, c'est mon commentaire maintenant, dans l'image, tant l'image et le commentaire sont subtils. C'est le monde ici des esclaves domestiques, 6 en tout, pour une famille de moyenne fortune, avec une hiérarchie de couleurs et une hiérarchie culturelle. La mulâtresse, métisse de noir et de blanc, occupe un rang à part. Elle est aussi bien habillée que sa maîtresse et infiniment plus séduisante que cette dernière, encore enceinte. Elle est la seule des esclaves à être chaussée. Les maîtres ont leurs femmes de chambre et leurs domestiques. Et ceux-ci, c'est-à-dire la femme de chambre et le domestique, ont eux-mêmes leurs esclaves. L'esclave de tous est maigre et mal habillé. Il est neuf, c'est-à-dire qu'il arrive d'Afrique. Son intelligence renvoie ici à sa capacité de s'adapter à ce monde et à monter dans la hiérarchie domestique. Le monde des esclaves décrit ici est un monde hiérarchisé et non solidaire. Les esclaves créoles, c'est-à-dire nés au Brésil, méprisent les esclaves d'Afrique et aspirent à posséder leurs esclaves. Il faut bien sûr rester prudent devant ce type d'image. Ne pas y voir une photographie, mais la vision que Debré a de la société esclavagiste. Mais il est vrai que dans la société brésilienne de ce premier 19e siècle, traversée de révoltes d'esclaves, il est frappant de constater qu'il n'y a jamais eu de solidarité entre l'ensemble des esclaves. Les créoles se sont toujours désolidarisés de ces révoltes d'Africains. Et ils estiment, ces créoles, qu'ils ont le droit à plus de privilèges que les nouveaux arrivants. Mais ils ne cherchent pas à obtenir ces privilèges par la révolte, mais bien plutôt par l'intégration et l'adaptation à cette société. L'intégration des valeurs de la société esclavagiste par les esclaves et les affranchis est une réalité documentée par d'autres sources. Dès qu'un esclave est affranchi et qu'il en a les moyens, il achète des esclaves. On le voit par le testament des affranchis, qui ont souvent plusieurs esclaves, jusqu'à 7, 10 esclaves, hein, pour les affranchis qui ont bien réussi. Et dans leur testament, ils leur lèguent de l'argent à condition qu'ils se marient légitimement ou à condition qu'ils se soient bien comportés avec eux, avec respect. Ils leur accordent alors la liberté. Hein, mais il y a ces affranchis parlent comme des maîtres d'esclaves non affranchis. Enfin, dernier commentaire sur cette image, on voit bien le caractère ostentatoire de l'esclavage domestique. L'employé de gouvernement de moyenne fortune se promène avec une véritable cour et on le voit gonflé d'importance. Cette image est un dîner au Brésil. Je ne la commenterai pas. Et je m'arrêterai, vous voyez le contraste entre la richesse de ces familles brésiliennes et là nous allons arriver à la pauvreté. Le dessin représente, et là je cite Debré, l'intérieur de l'habitation d'une vieille veuve infortunée, restée seule avec sa fille et une vieille négresse. Dans les familles tombées de l'opulence au dernier degré de pauvreté, on retrouve toujours le plus vieil esclave, encore valide, resté seul auprès de ses maîtres. La mère et la fille fabriquent de la dentelle. La vieille négresse, le baril sur la tête, fait toute la journée le métier de porteuse d'eau dans les rues de la ville. La ville, je ne l'ai pas dit, c'est Rio de Janeiro. Elle rend à la fin de la journée le gain de la journée. C'est exactement la scène que l'on voit. Elle est en train de mettre les pièces dans la main de sa jeune maîtresse, sur lequel a été prélevé l'achat de quelques bananes qu'on voit dans le baril, pour le souper frugal de toutes les habitantes de la maison. J'ajoute mon commentaire maintenant. On retrouve ici un des critères de définition de la société esclavagiste, le statut social bas des maîtres d'esclaves. Vous avez là des maîtres d'esclaves pauvres. Ici, l'esclave a un rôle économique. C'est son travail qui nourrit la famille. Avoir un esclave, au moins un, c'est s'assurer un minimum vital. La ville est pleine alors de métiers pour les esclaves. Ces métiers sont donc porteurs d'eau. Il faut se rendre compte de ce que c'est qu'une ville tropicale sans l'eau courante. Donc porteurs d'eau, porteurs de lourdes charges, marchands ambulants, travaux ménagers, la blanchisseuse, la couturière, le barbier, tout cela sont des figures de ces multiples travaux faits par les esclaves dans les villes. Ces esclaves sont appelés des esclaves de gain, de gagno en portugais, c'est-à-dire qu'ils vivent librement dans la ville et rapportent leurs gains, soit à la fin de la journée, soit à la fin de la semaine, à leur maître. Cela reste bien de l'esclavage. Ici, le travail d'une porteuse d'eau, en plus c'est une vieille femme, est un travail harassant. La vieille esclave est gardée car elle est encore valide, dit le commentaire. Elle dort à même le plancher de bois. Souvent, les esclaves vieux et invalides étaient affranchis. C'était une manière de s'en débarrasser. Ici, l'esclave est encore utile. Alors, le système du gain que les sources décrivent est très présent dans les villes brésiliennes du XVIIIe et XIXe siècle. Il y a un accord entre le maître et l'esclave sur le gain que l'esclave doit faire soit par jour, soit par semaine. Et l'esclave peut garder le surplus. Là encore, il y a une forme de rationalité économique. Le système du gain rapporte en effet davantage aux maîtres que le travail des champs. Les maîtres donc envoient leurs esclaves en ville. Ceux-ci subviennent à leurs vêtements, à leur logement, à leur nourriture. et ils payent ce qu'ils doivent à leur maître une fois dans la semaine. En 3 ans, le maître récupère le prix d'achat de l'esclave. En 9 ans, l'esclave a suffisamment gagné pour racheter sa liberté. Encore faut-il que le maître la lui accorde. Les représentants des autorités portugaises dénoncent cette forme d'esclavage comme trop douce et libre. Lorsqu'ils arrivent de Lisbonne, ils sont horrifiés par cette ville où les esclaves circulent librement. Ils y voient la source de toutes les séditions, de tous les complots. Et en effet, les esclaves circulent librement entre la ville et la campagne, souvent comme marchands ambulants. Il a existé beaucoup de révoltes dans les mondes des villes du 1er 19e siècle au Brésil, et j'évoquerai celle des esclaves Haoussa, du nom d'une ethnie musulmane de l'intérieur du Bénin, qui a été en 1804 victime d'un djihad mené par des religieux peuls. Ils ont été vaincus, les Haoussa, et déportés en masse en 1804 à Salvador de Bahia. En 1807, alors qu'ils sont arrivés depuis peu au Brésil, ils fomentent une révolte qui a pour objectif de prendre la ville, de tuer les Blancs et de mettre en esclavage les esclaves non révoltés et les affranchis. Le complot échoue. Le complot est dénoncé aux autorités qui arrêtent les instigateurs et font une grande enquête qui permet donc pour l'historien d'aujourd'hui d'en savoir plus sur ce monde des esclaves de Gagnon, sur ce monde des esclaves de Gain et des affranchis que Debré a peint. Et je m'appuie ici sur l'enquête d'un historien brésilien, João José Reis, qui a écrit un remarquable article sur le sujet paru en français dans la revue des Annales en 2006. On peut faire dialoguer les sources que nous montre João José Reis avec les images de Debré. Et par exemple, cette image, le marchand de paniers qui marche dans la région rurale, remarquez comme il est habillé à l'africaine. Souvent, ces marchands ambulants, c'est peut-être un esclave, peut-être un affranchi, proposaient des marchandises africaines, l'huile de palme, le savon de la côte, la gomme, le coton africain, les coquillages. Et ces hommes non seulement apportaient aux esclaves ou aux affranchis des marchandises d'Afrique, mais aussi des nouvelles. L'idée d'une coupure définitive entre les deux côtés de l'Atlantique est en fait à nuancer. Et dans le cas du Brésil, où il y a une arrivée massive et permanente d'Africains, on a pu donc voir, grâce à ces nouvelles sources, qu'il y a une relation qui perdure avec l'autre côté de l'océan. Là, cette image nous montre aussi des esclaves de Gain transportant du lait. Certains pots à lait sont fermés avec un cadenas, d'autres ne le sont pas. Et ceux qui ne le sont pas tiennent à la main un petit verre. Et en fait, le commentaire de Debré raconte que les esclaves jettent un peu de lait, remplacent par de l'eau, vendent du lait sur le chemin pour pouvoir s'acheter eux-mêmes un verre de cachaça. Et donc, il montre comment les esclaves dupent leur maître et les trompent. Donc là, c'est une image classique des entourloupes que l'esclave peut faire au maître pour améliorer son quotidien. Encore une image de ces esclaves de Gain, avec, vous voyez ici, le fer au cou, qui nous rappelle que cet esclavage que je décris dans sa réalité urbaine est bien sûr un esclavage qui reste dur avec les châtiments et avec la dureté dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, cette image, je commenterai un peu plus longuement, « Négresses libres vivant de leur industrie ». Cette image donne à Debré l'occasion de parler de l'affranchissement, thème central dans toute société esclavagiste. L'affranchissement est l'horizon de l'esclave. Il est ce qui permet de ne pas désespérer. L'affranchissement au Brésil reste du bon vouloir du maître. Et pour cela, le système esclavagiste est très dur au Brésil. Jamais il n'y a eu d'autre forme d'affranchissement que celle, enfin, que l'affranchissement du maître. L'esclavage est perpétuel, transmissible par la loi du ventre. Tout enfant d'une mère esclave est esclave, et seul le maître peut affranchir par une lettre d'affranchissement. Debré insiste à juste titre pour dire que les femmes sont plus facilement affranchies que les hommes. Les travaux des historiens le confirment. Alors qu'il y a plus d'esclaves hommes que femmes, il y a plus d'affranchis femmes que d'hommes. C'est sans doute le signe d'une plus grande capacité des femmes à s'adapter et à adopter les usages et les coutumes de cette société. Le système de l'affranchissement est souvent le système... Alors, il y a ou un affranchissement gratuit, entre guillemets, donné par le maître souvent au moment de son testament, en récompense de la bonne action de son, enfin de la bonne conduite de son esclave. Sinon, le système le plus courant au Brésil est le système de paiement échelonné, qui a été mis en place dans la société minière du XVIIIe siècle, la société des Minas Gerais, et qui montre bien comment cette société brésilienne est fluide et inventive. Les esclaves et les maîtres passaient un accord oral, avec souvent une trace écrite, mais pour fixer le prix de la libération de l'esclave. Et l'esclave échelonnait son paiement sur plusieurs années, parfois une dizaine, une vingtaine d'années. Ça pouvait être long. On connaît cette affaire de paiement, notamment à cause de toutes les affaires qui ont mal fonctionné. La confiance de l'esclave était parfois trahie. Et il se rendait alors au tribunal pour faire reconnaître ses droits. C'était des droits coutumiers, mais l'esclave allait jusqu'au tribunal pour les faire reconnaître. La question de la thésaurisation des sommes était une difficulté. Et certains affranchis devenaient des sortes de banquiers, car ils conservaient les sommes que les esclaves avaient gagnées et qu'ils ne voulaient pas laisser à leur maître, car ils n'avaient aucune confiance en leur maître. Les bijoux en or étaient pour les femmes une façon aussi de thésauriser sur elles-mêmes les sommes gagnées. Une fois le processus de paiement échelonné engagé, on entrait dans une période d'entre-deux, entre l'esclavage et la liberté. Par exemple, le maître ne pouvait plus vendre ou louer son esclave. Mais si la femme tombait enceinte avant la libération totale, son enfant était esclave. On revoit toujours le même système, fluidité, forme de liberté dans ce système et en même temps dureté des règles et dureté du maintien de l'esclavage. Ici, l'image nous montre des femmes libres et élégantes. Toutes portent de lourds bijoux, signe extérieur de leur richesse. L'une est vendeuse de fruits, elle a une bourse bien remplie aux côtés. Elle est habillée à l'africaine, elle est accompagnée d'un esclave qui porte la corbeille de fruits. Femme libre qui possède un esclave et qui vend ses fruits dans la ville. Les autres sont de très belles femmes, élégantes, devant un magasin de mode parisienne. Il y a écrit « tailleur français ». Elle nous rappelle le pouvoir de séduction des mulâtresses, symbole du charme de la femme brésilienne, charme qui facilitait évidemment la réussite sociale. Ces femmes libres l'étaient souvent doublement, libres de la domination servile et aussi libres de la domination des hommes. C'étaient des femmes qui ne se mariaient pas, qui travaillaient et gardaient leur argent pour elles. Ce type d'image montre l'adhésion aux valeurs de la société esclavagiste, comme un élément fondamental pour sortir de l'esclavage, mais elle montre aussi toute cette amplitude de la liberté, même des femmes dans cette société. Le commentaire de Debré est assez décalé. Et il nous rappelle que cette image ne représente pas, loin s'en faut, l'ensemble du monde esclave. Je vous lis le commentaire de Debré. Aujourd'hui, non seulement on compte au Brésil une foule d'esclaves de 20 et 30 ans de servitude, mais bien plus encore. Dans les grandes propriétés rurales, on trouve l'exemple d'une quatrième génération noire qui s'éteint très chrétiennement dans la captivité. Debré rappelle ici la différence entre les esclaves des villes et les esclaves des champs. Il était plus facile pour les esclaves des villes de se faire affranchir. Et surtout ici, le libéral Debré, fils de la Révolution française, souligne ici, au passage, une des contradictions du système esclavagiste portugais, dont on a vu qu'il reposait sur l'idée de l'évangélisation et de la conversion au christianisme, soit d'indiens rebelles, soit d'Africains déjà mis en esclavage dans leur pays et déportés en terre chrétienne. Ce que souligne ici Debré, c'est le problème: comment justifier que des chrétiens, fils de chrétiens, au bout de 4 générations, soient toujours esclavagisés? Cette contradiction, il n'est pas le premier à l'avoir soulevée, et Lorenzo Dias, un homme noir, libre, noble descendant des rois du Congo et de l'Angola, qui se présente comme l'ambassadeur des esclaves et des noirs du Brésil et du Portugal, Lorenzo Dias avait exposé ce paradoxe au pape en 1682 à Rome. Selon Lorenzo Dias, faisant référence à la bulle de 1455 dont j'ai parlé tout à l'heure, le pape avait autorisé le roi du Portugal à pratiquer l'esclavage pour convertir les nègres païens, comme il disait, mais cette autorisation ne pouvait s'étendre d'aucune manière aux enfants nés dans la chrétienté. La demande de l'ambassadeur était restée sans réponse. Et le Saint-Office de Rome s'était contenté de dénoncer les pratiques abusives des maîtres d'esclaves et le manque d'accès aux sacrements. Le texte romain envoyé aux nonces d'Espagne et du Portugal affirmait la liberté du sacrement de mariage et le droit de choisir son conjoint. Cela fait la transition avec cette image de Debré, le mariage des esclaves dans les maisons riches. Et là, je cite encore Debré pour cette dernière image, « Il est de bon ton de ne pas trop contrarier l'inclination des esclaves qui veulent se marier, dans l'espoir de les attacher davantage à la maison. » Le commentaire joue ici sur la liberté et les chaînes, ces deux instruments de la société esclavagiste. Liberté et fluidité pour que cette société fonctionne malgré tout, et chaînes et châtiments pour que l'esclavage pivot de cette société se perpétue. La subtilité de Debré est encore une fois grande. Il évoque dans son commentaire les maîtres qui souhaitent s'attacher leurs esclaves toujours davantage, mais dans l'image, il ne représente pas les maîtres. On ne voit que un groupe de femmes et d'hommes noirs, dont on ne sait pas s'ils sont esclaves tous, des hommes et des femmes graves, dignes et bien habillés. Ce sont les conjoints et les témoins de l'engagement. La capacité d'action des esclaves dans cette société éclate dans cette image, où l'on peut imaginer que les stratégies des esclaves qui se mariaient ne rejoignaient pas les stratégies des maîtres qui cherchaient à se les attacher davantage. Et l'on peut penser que les stratégies des esclaves étaient au contraire de se détacher de la maison de leur maître. Il est difficile de conclure sur un si vaste sujet et je souhaite laisser à l'auditoire la possibilité par ces questions de réorienter mes propos. J'ai simplement tenté de vous montrer la complexité du thème de l'esclavage, institution centrale de la société brésilienne pendant 4 siècles. Un système esclavagiste dur qui se maintient par une traite africaine renouvelée et qui permet ainsi de reproduire indéfiniment les formes de domination les plus brutales sur les nouveaux arrivants. Et bien sûr, je reviens sur cette image qui montre une boutique de vente d'esclaves, hein, ces esclaves neufs et maigres après la traversée qui nourrissent le marché brésilien encore dans les années où Debré était présent au Brésil, hein, puisque la traite s'arrête en 1650 seulement. L'histoire du Brésil est donc ponctuée par cette violence d'un système qui n'accorde pas de pardon, comme il le dit, un système qui ne libère jamais de l'esclavage sans l'accord du maître, qui place au-dessus de tout l'autorité du maître sur ses esclaves, qui sont ses possessions, un système où les hommes sont véritablement des marchandises, tout en ne cessant jamais d'être des personnes. Et l'image du mariage nous le rappelle. L'institution de l'esclavage n'a pas empêché une société fluide et mobile de se constituer, avec des formes de consensus. Ces consensus sont la religion, la revendication d'une identité brésilienne que les créoles revendiquent, et d'une certaine façon, l'esclavage lui-même, hein, qui est une forme du consensus du Brésil. En 1822, au moment de l'indépendance, les esclaves représentent 40% de la population, les hommes libres 60%, la moitié sont des libres de couleur, la moitié sont des blancs. Au même moment, aux États-Unis, les libres de couleur représentent 5% de la population. La population libre de couleur au Brésil va revendiquer tout au long du 19e siècle le droit d'être des citoyens à part entière, sans stigmate attaché à la couleur ou au passé servile, imposant aux autorités une forme de silence sur la couleur de la peau. Longtemps, l'esclavage en tant qu'institution n'est pas questionné au nom du droit de propriété. Les révoltes du XIXe siècle ne visent pas à abolir l'esclavage, mais à tuer les maîtres ou à les remplacer, mais il n'y a pas de révolte générale, de conflagration générale de la société esclavagiste, comme il y a eu à Saint-Domingue. Ce n'est qu'à partir de la seconde moitié du 19e siècle que la cause abolitionniste se diffuse au Brésil. L'esclavage au Brésil permet donc à l'historien d'éclairer les deux dimensions qui fondent le paradoxe de l'esclavage humain, c'est-à-dire le fait que des hommes soient ravalés au rang de marchandises en restant néanmoins des personnes. Merci. J'ai mis ici quelques noms des historiens que j'ai utilisés. Je donnerai une bibliographie plus complète pour le site du musée. Voilà. Alors, la question porte sur le quilombo. Effectivement, c'est...
Éventuellement, l'expérience ou la figure historique de Zumbi, qui est un personnage important à Salvador, par exemple.
Oui. Alors, j'ai même pas mentionné Palmarès, ce qui est un manque. Donc, Palmarès, c'est au XVIIe siècle, à l'intérieur du Brésil, dans le nord-est du Brésil, du côté de l'état actuel de l'Alagoas, un refuge, ce qu'on appelait des mocambos, c'est-à-dire des cachettes, d'esclaves fugitifs qui, on la trace dès les années 1605 de ce refuge. Ce refuge va connaître une ampleur très grande à cause justement de la présence hollandaise. Les guerres hollandaises entre les années 1630 et 1654 vont totalement désorganiser le nord-est. Les moulins dont j'ai parlé vont être incendiés et un certain nombre d'esclaves vont profiter de cette occasion pour
rejoindre cette région intérieure. Palmarès va exister jusqu'en 1695 à peu près, où il est détruit par les armées portugaises, constituées de Portugais et d'Indiens. Hein, le fait que les Indiens soient aussi des esclaves ne signifie pas une solidarité entre Indiens et esclaves. Et les armées pour détruire ces refuges étaient constituées d'Indiens. Alors, sur Palmarès, il y a des milliers de choses à dire. Je pourrais simplement reprendre, puisque vous avez parlé du terme quilombo. Donc, j'ai parlé, moi, de mocambo. Donc, en fait, ce sont des cachettes. Et le terme de quilombo va apparaître dans les rapports des autorités à la fin du XVIIe siècle. Un quilombo, c'est un terme de la langue Congo, Kimbundu, qui signifie un camp de guerriers. Et c'est intéressant, aujourd'hui les historiens s'appuient sur, par exemple, l'analyse de ces termes pour essayer de comprendre la réalité de ces refuges d'esclaves qui étaient de véritables royaumes néo-africains à l'intérieur du Brésil. Et dans le cas de Palmarès, hein, on pense qu'il y a eu jusqu'à peut-être 10 000, même peut-être un peu plus, esclaves à Palmarès. Alors, pendant 20 ans, enfin 20 ans même plus, puisque les Hollandais ont déjà essayé de combattre Palmarès, ils n'y sont pas arrivés. Alors, vous avez cité Zumbi. Zumbi est un personnage un peu mythique dans l'histoire brésilienne, puisque c'est le roi de Palmarès qui se serait battu jusqu'au bout. Alors en fait, il a été très important pour le mouvement noir au Brésil qui a fait de le jour de la mort de Zumbi, le 20 novembre, le jour de la fierté noire, alors que la grande fête était avant la fête de l'abolition. Une abolition octroyée, eh bien non, les mouvements noirs ont voulu faire leur propre jour. Alors Zumbi, ça veut dire sans doute une forme de royauté congolaise, donc c'est moins un personnage qu'une charge de royauté congolaise. Et voilà. Et une autre figure qui est aujourd'hui un peu qui a été exhumée par les historiens, c'est Zumba, qui est celui qui a négocié avec les autorités portugaises pour essayer de faire de Palmarès, pour essayer de sortir du quilombo par la voie de la négociation. Et cet accord qui a été négocié avec les autorités portugaises n'a pas été respecté par la société esclavagiste, parce que l'idée est qu'il fallait détruire Palmarès. Et quand j'ai employé l'expression « il ne peut pas y avoir de pardon dans la société esclavagiste », c'était un renvoi à Palmarès. L'idée qu'on ne peut pas pardonner aux esclaves fugitifs. Il faut écraser Palmarès. C'était ça l'idée. Et la négociation n'a pas abouti. Parce que négocier, ça aurait été une façon de dire que pour un esclave, on pouvait conquérir sa liberté dans la société esclavagiste. Or non, la société esclavagiste tient, et là c'est encore, on revient sur la dureté du système, parce que seul le maître peut accorder la liberté. Donc voilà, donc Palmarès est un moment fondateur, il y a énormément de travaux passionnants sur Palmarès, par les historiens du Brésil. Voilà. Merci, grâce à vous, j'ai pu évoquer Palmarès que je n'avais pas évoqué. Oui ?
Bonsoir, madame. Trois petites questions. La première, vous avez expliqué comment le Portugal a dû obtenir du pape le droit de faire tout ce qu'il a fait avec les autres sur les Africains. Je me demande pourquoi les autres puissances européennes esclavagistes en puissance n'avaient pas contesté cette espèce de monopole. Et le monopole lui-même, est-ce que c'est parce qu'il y a eu un moment, le siège n'est pas porté plutôt au Portugal qu'à Rome ? Je ne sais pas pourquoi on lui a donné ce privilège. Et surtout, pourquoi les autres n'ont pas contesté ? Deuxième Question, madame, bon, je crois que vous avez répondu déjà en partie, c'est juste un petit détail. Sur les processus de franchissement, d'affranchissement, comme les procédures ont été diverses, l'affranchi avait-il quoi comme preuve? Parce qu'il y avait le risque de se faire prendre et être remis en esclavage. Et puis les papiers étaient privés. Qu'est-ce qu'ils avaient comme preuve pour dire « je suis affranchi, donc je suis plus esclave, donc vous n'avez pas à me toucher » C'était un peu risqué. Dernière question, madame. Les arguties, arguments si vous préférez, guerre sainte, guerre juste, etc., avancées, est-ce que c'était un brin d'état, d'âme ou pourquoi ils étaient obligés de trouver des moyens comme ça justifiés? Vous avez dit vous-même, on peut toujours décréter, c'est ce qu'a fait le Code noir de Colbert et Louis XIV, on peut toujours décréter que les hommes sont des meubles. Non, parce que c'est les êtres humains, sont incapables de tuer leur maître et faire la guerre, revendiquer les choses. Merci.
Merci. Alors, merci pour ces trois questions très intéressantes. Alors, la question du monopole. Alors, le monopole date de 1455, donc à un moment où seuls les Portugais voyagent sur la côte africaine. Mais enfin, vous avez raison, les autres nations européennes arrivent tout de suite. Alors, le monopole portugais dure jusqu'en 1640. Dès 1640, toutes les autres nations, les Danois, les Hollandais, les Français, les Anglais, vont directement aux sources de l'esclavage. Jusqu'en 1640, les Portugais ont réussi à maintenir ce monopole. Alors, pourquoi les Portugais l'obtiennent? Au fond, c'est une bonne question. J'allais dire, dans le contexte du XVe siècle, cela ne dérange pas énormément les autres nations, c'est-à-dire que, en fait, les autres nations sont présentes dans cet esclavage dès le XVe siècle, notamment les marchands florentins, très importants, les marchands de l'Allemagne du Sud, les Fuggers, toutes ces familles qui ont fait l'élection de Charles Quint, travaillent avec la traite, c'est eux qui fournissent les objets pour la traite, les objets de métallurgie que l'on échange. Donc, j'allais dire que le monopole portugais ne gêne pas beaucoup, parce que finalement, le Portugal, par exemple, un des grands marchands italiens, qui devient même plus riche que le roi du Portugal, tellement il a bénéficié de ce commerce de la traite à la fin du XVe siècle, c'est un Florentin, il habite Lisbonne, et il a passé un accord avec le roi du Portugal. Il travaille pour le roi du Portugal, mais il s'enrichit lui-même. Donc, on est dans un contexte où le nationalisme n'est pas exactement la même chose que ce que nous voyons. Donc, bon, le roi du Portugal a ce monopole, mais toutes les autres nations européennes, si elles payent leurs taxes au roi du Portugal, sont acceptées. Voilà. Et puis, bon, il y a la question, bien sûr, de l'avancée des Portugais d'un point de vue de la navigation, d'un point de vue du contact avec les autres peuples, qui font que bon, bah, cette nation a une forme d'avance pendant un certain temps. Après 1640, comme je le disais, il n'y a plus de monopole de la traite ibérique. Votre deuxième question sur le processus d'affranchissement. Et là aussi, très intéressante, on est dans une société... Alors, moi, j'ai travaillé notamment sur des sources du début du XVIIIe siècle. Ce qui est frappant dans ces sociétés, c'est des sociétés de l'oralité où les gens se connaissent, où les gens ont une réputation. Et dans les tribunaux, on fait venir des témoins. Et voilà. Mais sinon, il y a... Alors, au XIXe siècle, encore peut-être plus, il y a des lettres... Et même au XVIIIe, c'est passionnant parce que les gens ne savent pas lire, mais ils ont des papiers qui disent qu'ils ont été affranchis. Donc la lettre d'affranchissement est un papier très précieux que l'esclave peut l'ancien esclave, l'affranchi, présente. Mais il y a toujours la peur d'être à nouveau pris pour un esclave. Et
On a des traces en plein 19e siècle, enfin, il y a une révolte, notamment autour d'une revendication. Dans le premier recensement du Brésil, il y avait une mention de la couleur, et ça a été vu comme une forme de volonté de réesclavagiser tous ceux qui répondraient qu'ils étaient noirs. Donc il y a eu une révolte autour de ça. Donc il y a toujours cette peur d'être réesclavagisé et l'importance de ce document. Mais bon, comme je le disais, c'est des sociétés publiques où on connaît ses voisins et où il y a aussi des formes de témoignages entre les personnes. Alors, sur votre dernière question, qui est évidemment compliquée, j'ai fait exprès d'expliquer la conception chrétienne de l'esclavage. Il y a des états d'âme. Certains ont des états d'âme. Certains ecclésiastiques ont écrit peu, finalement, par rapport à la masse de cette traite, je pense par exemple à certains jésuites du Brésil qui ont été, certains ont refusé, ont été. Alors dans ces cas-là, ils sont renvoyés en Europe. On dit qu'ils ont trop de scrupules pour se vivre sur ces terres-là, que la réalité de ces terres-là implique l'esclavage, qu'on peut pas s'en passer. Et donc, voilà. Alors, pour quelques-uns qui ont protesté, l'énorme majorité n'a pas protesté. Mais, en revenant, que ce soit le Code noir, ou lorsqu'on dit que l'esclave est un bien meuble, ça renvoie à son statut de marchandise, mais ça ne signifie pas qu'il n'est pas une personne. Pour la conception de cette époque, il est à la fois un bien meuble et une personne. C'est ça qui rend sans doute, c'est pour ça que j'ai mis ces deux images à la fin, à la fois la boutique qui nous renvoie, à cette dimension de marchandise, et puis ce mariage qui nous renvoie bien à la question de deux personnes. Mais c'est bien sûr le cœur du paradoxe et de la difficulté à comprendre cet esclavage. Voilà.
Bonsoir madame, merci pour votre éclairage très intéressant sur le Brésil. Alors, une des caractéristiques du Brésil actuel, c'est son extrême métissage, bon, évidemment dû à la traite des esclaves pendant 3 siècles. Malheureusement, ce pays, c'est sans doute le pays record dans le monde en termes d'inégalité entre les plus riches et les plus pauvres. On connaît tous les favelas, c'est un symbole de la pauvreté, et les très riches se promènent en hélicoptère, par exemple à Sao Paulo, pour gagner du temps. Est-ce que vous ne pensez pas que ces inégalités sont un héritage direct des 3 siècles d'esclavagisme, même si ces inégalités ont diminué depuis une dizaine d'années avec le parti des travailleurs de Lula, évidemment, mais... Mm-hmm. Voilà.
Bien sûr, le Brésil d'aujourd'hui est façonné par l'esclavage, enfin par cet héritage de l'esclavage. Je pense que vous avez dit à la fois les deux éléments importants, le métissage du Brésil et l'extrême inégalité qui est présente de façon... J'ai présenté ces images autour de la pauvreté, mais qui est présente de façon très ancienne. Et effectivement, une des origines de la misère du Brésil, c'est la fin de l'esclavage. La fin de l'esclavage, les esclaves se sont retrouvés sans rien. C'est-à-dire qu'il y a eu une abolition en 1888 sans... indemnisation des maîtres, bien sûr, et sans aucune indemnisation des esclaves. Donc les esclaves se sont retrouvés du jour au lendemain. Alors souvent, ils sont restés travailler pour leurs anciens maîtres, parce qu'il n'y avait pas tellement d'autres solutions. Mais la pauvreté et les premières favelas datent de la fin du 19e siècle et sont tout à fait liées à la fin de l'esclavage. Oui, la misère du Brésil est un héritage de l'esclavage, sans aucun doute. Voilà. Bon, le Brésil aujourd'hui est dans un mouvement de pour repenser son histoire. Hein, il y a aussi tout un travail autour, par exemple, de l'accès aux universités pour les étudiants descendants d'Africains ou d'Indiens, ce qui est très compliqué au Brésil, étant donné le niveau de métissage de la population, de pouvoir déterminer clairement ce type de... Mais bon, voilà, le Brésil a adopté depuis une dizaine d'années des formules de quotas qui sont... Alors, ils ont choisi plutôt des critères raciaux que des critères sociaux, ce qui a été l'objet d'une longue discussion au Brésil, sans doute par réaction, sans doute par volonté d'effacer le sentiment de culpabilité lié à l'esclavage, bien sûr. Voilà.
Oui, bonjour. Oui, je suis là.
Oui, pardon.
Tout d'abord, oui, je voulais vous remercier pour votre description fine et riche à un moment de votre exposé sur la société esclavagiste et les caractéristiques particulières de l'industrie donc, autour du sucrière. Et je voulais vous demander justement par rapport à ça, vous avez rappelé... le boom justement de l'industrie autour de la caféiculture à partir du milieu du XVIIe siècle. J'aimerais savoir si ces caractéristiques que vous nous avez rappelées, et surtout je pense à la société esclavagiste que vous décrivez, se retrouvaient autour des plantations donc, de café, quelles étaient finalement les caractéristiques spécifiques de la société esclavagiste autour de la caféculture, parce qu'il me semble que vous avez d'abord parlé, c'était intéressant, des paolistes qui vont chercher les Indiens autour de la Guyane, et en second lieu, comment la grande spécificité aussi autour de la caféculture, c'est la participation assez importante des Européens, et notamment des Italiens, les plantations du café, et comment s'est passé peut-être, à partir de cet élément, comment s'est différenciée justement la société esclavagiste, quelle forme d'esclavagisme, et ça a donné lieu aussi à la première république, de Sao Paulo qui avait une force, mais qui a posé sur des stratégies politiques différentes du Nord-Est. Voilà.
Alors, votre question est très précise et m'intimide un peu parce que je ne suis pas spécialiste du 19e siècle, mais plus de la période coloniale. Alors, les plantations de café, je les connais moins bien. Les plantations, le café, le cycle du café, puisque on parle de cycle dans le cas du Brésil, commence à la fin du XVIIIe siècle et il est très important au XIXe siècle dans la vallée de la Paraíba entre Rio et São Paulo. Et se développe, vous avez parlé de ces barons du café, toute une noblesse impériale. Alors, le système du café, donc c'est aussi une culture d'exportation qui demande un travail moindre que le travail du sucre. Il y a un travail de séchage, donc il faut ramasser le café et ensuite le mettre à sécher. Il y a aussi des formes de travail. Alors j'ai visité certaines de ces fazendas du café qui sont des lieux qu'on peut visiter aujourd'hui encore autour de São Paulo et de Rio, qui sont superbes. Et donc, par rapport à votre question sur les étrangers, je me souviens de cette propriété qui appartenait à un Anglais qui avait fait venir à grands frais des machines de Londres pour montrer, il était bien sûr abolitionniste, et pour montrer à ses voisins que les machines étaient bien plus efficaces que les esclaves. Donc vous avez, il y a aussi au XIXe siècle toute cette discussion autour d'un nouveau travail industriel où on peut désormais se passer d'esclaves. Et la négociation autour du... Alors, au XIXe siècle, les barons du café... Enfin, l'esclavage est un esclavage bantou, un esclavage d'Afrique centrale, où il y a 90% d'Africains dans ces fazendas. C'est un lieu de très forte africanisation. Hein. Certains historiens ont parlé de proto-nation bantou. Enfin, c'est un monde très africain. Et avec des esclaves très repliés sur eux-mêmes, qui parlent, enfin repliés sur la senzala, c'est-à-dire la propriété esclave, qui ne parlent pas portugais, un monde très africain en plein milieu du 19e siècle au Brésil. Hein. Donc voilà, c'est lié à cette traite qui se reproduit. Et une des négociations pour l'abolition de l'esclavage, entre les Anglais et les barons du café à l'époque, les Anglais ont promis le chemin de fer pour suppléer aux esclaves, parce que les esclaves étaient aussi les porteurs du café depuis la région de l'intérieur, de la vallée de Paraíba jusqu'au port. Voilà. Donc là, c'est intéressant parce que, effectivement, comme ça a duré 4 siècles, on voit hein, que les problèmes de l'esclavage se posent dans des termes différents selon... selon les siècles. Hein. Donc on est 19e période de l'industrialisation naissante, du chemin de fer pour remplacer les esclaves. Oui, bonsoir.
Je voulais savoir s'il existait en nombre en tout cas, des esclaves qui s'affranchissaient et dont les enfants restaient par contre en esclavage.
Des esclaves qui
s'affranchissaient. Des esclaves s'affranchissant.
Oui.
Et comme vous avez dit précédemment que les enfants restaient propriété du maître, est-ce qu'il existe des cas de ce sorte de cas en
Europe ? Ah oui. Oui. Il y a tous les cas possibles. Il y a même des. Alors je ne me souviens plus exactement du cas, mais je me souviens c'est dans un testament d'Indien. En fait, quelqu'un qui rachète son propre enfant pour pouvoir le libérer. Enfin, la société esclavagiste est extraordinairement complexe. Parce que les statuts sont compliqués. J'ai dit, il y a quelquefois du quasi-esclavage. Il y a des formes de libération qui durent longtemps. Donc pendant 20 ans, on est entre l'esclavage et la liberté. Les enfants qui naissent sont esclaves. Bon, donc que des affranchis soient et des enfants, leurs enfants qui sont nés avant leur affranchissement restent esclaves. Bien sûr, alors il y a des formes de solidarité très fortes hein, dans les familles esclaves, et la famille esclave est un nouveau thème de recherche pour les historiens. Donc, une fois que les parents sont affranchis, ils vont avoir de cesse que d'essayer d'affranchir leurs enfants. Mais comme je l'ai dit, l'affranchissement est toujours de la décision du maître. Donc, il ne suffit pas d'avoir l'argent, il faut encore que le maître soit d'accord. Voilà. Et puis, j'ai pas tellement vu des cas comme ça, mais par contre, j'ai vu beaucoup de cas de mariage, puisque j'ai étudié les mariages de près, et il semble qu'il y ait une forme de solidarité, c'est-à-dire qu'entre quand il y a un libre et un esclave mariés ensemble, c'est une première étape pour que l'esclave soit ensuite libéré. Hein. Et puis, il y a des formes de solidarité par là non plus, j'en ai pas parlé, parce qu'on pouvait pas parler de tout, des confréries. Hein, qui sont ces associations religieuses de dévotion et qui sont aussi et qui ont des caisses pour permettre aux confrères de se libérer, de pouvoir racheter leur liberté. Hein, donc il y a des formes de solidarité très grandes autour du rachat des membres de sa famille. Mais voilà.
Bonsoir. Dans les illustrations, il semble qu'on ne voit pas d'esclaves indiens. Est-ce que vous pouvez en dire plus, s'il vous plaît ?
Alors, les illustrations sont... en bâtissant ce PowerPoint, je me suis fait aussi la réflexion. Parce que, comme je vous l'ai dit, les images sont plutôt du début du 19e siècle, ces images de Debré. Alors, Franz Post...
ça peut être peut-être des esclaves mixtes, hein, là, on ne peut pas savoir si ce sont des Indiens ou des... Enfin, d'ailleurs, c'est plutôt des Indiens, ils ne sont pas très noirs hein, dans, sur cette image. Sinon, pour Debré, début 19e, il n'y a plus d'esclavage indien à partir de 1759. Pombal, le ministre des Lumières, a aboli l'esclavage indien. Et il y a toujours des formes de dépendance indienne. Voilà. Mais bon, j'aurais pu vous montrer des tableaux de Franz Post ou de Albrecht Eckhout, où on voit des Indiens toupis, voilà, qui auraient pu vous, dont on ne sait pas exactement le statut, mais qui, il y a quelques représentations. Hein, les plus intéressantes étant le fait des peintres hollandais du Brésil. Hein, ce sont les images les plus intéressantes pour la période coloniale. Et puis, alors, j'avais pensé, alors. Voilà, ça c'est donc cette carte de 1519. Comme je l'ai dit, il n'y a pas encore un esclavage massif indien en 1519. On est plutôt dans une relation d'alliance et de troc. Mais vous avez là des images d'Indiens du Brésil avec déjà quand même quelques formes d'esclavage. Hein, parce que les Portugais, dès qu'ils arrivent, rachètent les prisonniers de guerre qu'ils rachètent comme esclaves. Donc voilà, quelques Indiens sur cette carte. Merci.